L'histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. Tous les mardis matins, 8h à 9h, 102.3 FM.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On s'intéresse encore une fois à la francophonie et cette fois-ci dans la francophonie, à l'intérieur de l'Organisation internationale de la francophonie et pour ne pas dire finalement au Cambodge, pour poser un diagnostic sur la langue française en Asie du Sud-Est et plus particulièrement dans ce pays de la région. Pour en discuter, il s'appelle Kravom In. Il est responsable du bureau national de l'Agence universitaire de la francophonie ou si vous préférez l'OUF, ouf.org/Asie-Pacifique. Il a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Phnom Penh. Kravom, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour, France.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de poser un diagnostic sur le français dans cette région du monde et plus particulièrement dans votre pays, l'Agence universitaire de la francophonie, l'OUF, qu'est-ce que c'est?
Oui, l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, voilà. L'AUF a été créée il y a 60 ans et est le premier réseau universitaire au monde, avec plus de 1000 universités et centres de recherche. Il y a l'université, grandes écoles, réseaux universitaires, centres de recherche utilisant le français, utilisant la langue française dans près de 120 pays, représente dans 70 pays dont l'AF dispose en relais de 180 implantations.
Voilà, donc tout un réseau, c'est le cas de le dire.
J'aimerais ajouter aussi, l'AF fonctionne sous la loi canadienne. Et donc la loi canadienne, dont les sièges de l'AF se trouvent à Montréal et à Paris. Hein.
Voilà. Donc, pour en savoir davantage, ouf.org. Kravom, parlons de francophonie comme telle. Pouvez-vous dire que le Cambodge, selon vous, est francophile?
Oui, certainement. Le Cambodge est très francophile parce que, vous voyez, c'est notre famille royale, même le roi père de Ram Sienou, sont très francophones. Et aussi le roi actuel, Norodom Sihamoni, est très francophone. Voilà, on a dans le ministère ministère des Affaires étrangères, il y a aussi un appel conseil de promotion de la francophonie, donc géré par le ministère des Affaires étrangères du Cambodge.
On a beau dire que le Cambodge fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie, mais est-ce qu'on apprend quand même régulièrement le français comme langue seconde? Parce qu'il y a quand même un marché des langues secondes. Hein? Il y a l'anglais, il y a le chinois, j'imagine, il y a l'espagnol, l'allemand, il y a beaucoup de langues qui sont disponibles pour apprendre à l'école. Est-ce que le français est encore compétitif?
C'est une bonne question. Voilà, au Cambodge, il y a l'enseignement des langues étrangères reconnu par l'État du Cambodge. Il y a le français et l'anglais. Donc, il y a deux langues étrangères enseignées dans les écoles. Donc, les élèves peuvent choisir soit le français comme langue vivante 1, soit l'anglais comme langue vivante 2. Et vice-versa, voilà.
Est-ce que, généralement, le Cambodge est un leader du français en Asie du Sud-Est? Quand on pense langue française, on pense peut-être plus au Vietnam. On dirait que le français circule plus dans ce pays. Mais dans votre cas, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un bastion francophone?
Oui, selon l'enquête de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, le Cambodge est un lieu de francophone, un pays francophone dans la région. Et le plus franc, il y a plus de francophones dans la région et aussi beaucoup de, d'activités, de, des actions francophones dans la région. Voilà.
En fait, est-ce qu'il y a même au Cambodge des festivals francophones, des festivals de films ou des salons du livre francophone? Est-ce qu'il y a des lieux de diffusion de la francophonie?
Au Cambodge, il y a la fête de la francophonie. Chaque année, c'est le 20 mars. On organise des fêtes de la francophonie dans les écoles, à l'université. Aussi, la fête commune de la francophonie organisée par le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports qui regroupe les universités et les écoles francophones, francophiles pour célébrer la journée internationale de la francophonie. Aussi, la francophonie, la journée internationale de la francophonie est célébrée aussi par le ministère des Affaires étrangères du Cambodge, voilà, sous forme d'une réception officielle, comme ça on invite tous les acteurs francophones, les entreprises, les ONG, les représentantes ministérielles, etc., pour, autour de la semaine de la francophonie, comme ça, pour échanger, pour discuter et voilà, parler de la francophonie. Voilà.
En tant que citoyen cambodgien, qu'attendez-vous, par exemple, du prochain sommet de la francophonie? On le rappelle, début octobre, Villers-Cotterêts, là où la langue française a commencé en France. C'est le sommet de la francophonie début octobre. Avez-vous des attentes vis-à-vis ce grand sommet?
Certainement, oui. Selon les réunions, au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, le ministère a bien préparé, donc le ministère a mis beaucoup de plans d'action pour être prêt à accueillir, par exemple, le sommet de la francophonie. Par exemple, le vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports ont mis beaucoup de plans d'action pour pouvoir accueillir le sommet de la francophonie au Cambodge pour 2026. Hein. Et cette semaine, le 17, il y aura aussi une réunion de l'Assemblée générale du Conseil de promotion de la francophonie au ministère des Affaires étrangères, dont le grand thème de discussion, c'est aussi le sommet de la francophonie au Cambodge en 2026. Voilà,
ça m'amène à la question qui circule. Êtes-vous confiant que le Cambodge va recevoir le sommet en 2026? Semblerait que pour l'instant, tout va bien pour vous. Il y a des chances que vous le receviez.
Oui, en tant que citoyen cambodgien, nous sommes très fiers et très, très contents, très heureux de pouvoir accueillir ce sommet de la francophonie au Cambodge. Il est rappelé que le Vietnam avait accueilli ce sommet en 1997 et depuis, pas d'autres pays en Asie qui a accueilli ce sommet. Donc, c'est une chance, c'est une fierté pour le peuple cambodgien, pour le pays, de pouvoir accueillir ce sommet de la francophonie qui est très connu, très réputé pour, au sein du monde francophone. Voilà.
Voilà, je le rappelle donc, Kravon Im, vous êtes responsable du Bureau national de l'Agence universitaire de la francophonie, l'OUF, ouf.org/Asie-Union-Pacifique. Et nous sommes en duplex avec Phnom Penh. En terminant, Kravon, Pour l'avenir du français en Asie en général et plus particulièrement au Cambodge, est-ce que vous êtes optimiste?
Certainement, oui, parce que nous sommes tous francophiles et nous avons les dirigeants, les leaders francophiles et francophones. La semaine dernière, notre premier ministre, lors de la rencontre des délégués françaises, il a prononcé le discours en français et aussi nous avons, on dirait, dans le conseil des ministres, par les ministres, là, on dirait trentaine de ministres, non, la plupart des ministres sont francophones et francophiles. Donc, c'est une chance pour le Cambodge d'avoir des dirigeants politiques francophones dans la gestion du pays, dans la leader du pays, voilà.
Voilà, à suivre. Merci beaucoup pour l'entretien, Cravon.
Je vous en prie. Bonsoir.
Merci beaucoup. Allez.
Tous les mardis matins, 8h à 9h, 102.3 FM.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On s'intéresse encore une fois aux retombées des élections législatives anticipées du mois de juin-juillet. Pour mémoire, donc, nouvelle Assemblée nationale à compter du 7 juillet. Et au moment où je vous parle, nous sommes à la fin juillet, en pleine tractation pour trouver un premier ministre. Tout ça avant les Jeux olympiques. Mais tout semble indiquer qu'on aura la réponse après les JO. Abemus papam, c'est le cas de le dire. Entre-temps, pour revenir sur cette campagne électorale, Philippe Folliot est sénateur du Tarn en Occitanie, membre du groupe Union Centriste, troisième groupe représenté au Palais du Luxembourg. Il a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Paris, en les terres de Marie de Médicis. Philippe, bonjour, bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, partant du début, Philippe Folliot, le 9 juin, quand j'imagine que vous écoutiez un peu comme tout le monde les résultats des élections européennes, quand Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, étiez-vous surpris?
Écoutez, tout d'abord, effectivement, ça a été une grande surprise. Une grande surprise dans un premier temps et une incompréhension dans un second. Parce que créer, j'allais dire, un nouveau temps politique, après, il est vrai, un scrutin européen qui n'a pas été favorable à la majorité présidentielle et au parti de la majorité présidentielle. Mais si chaque fois depuis le début de la Ve République, dans des élections intermédiaires, type élection européenne, la majorité en place ou le président issu de la majorité en place avait dissous l'Assemblée nationale parce qu'il avait eu un revers électoral à mi-mandat, je pense que nous aurions eu beaucoup, beaucoup de dissolutions. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la campagne des élections européennes, on a dit que c'est la thématique européenne qui doit prédominer. Et du reste, la majorité avait mis en avant un certain nombre de thématiques européennes. Contrario des listes, et plus particulièrement des listes d'opposition, mais qui, elles, avaient mis en avant des enjeux de thématique nationale autant que des enjeux européens. Par rapport à cela, nous nous trouvons donc face à une situation où le président de la République donne un cadre et une réponse nationale par rapport à un enjeu qui est un enjeu au départ européen. Ça, c'est le premier point d'incompréhension. Le second, et ça, je l'ai fortement ressenti en faisant campagne pour les candidats de mon mouvement, l'Alliance centriste un petit peu partout en France, une incompréhension relative à la temporalité. Parce que, et nous le voyons au travers des Jeux Olympiques, les yeux du monde vont être braqués sur notre pays. Et apporter un élément d'incertitude, prendre le risque en fait, d'apporter un élément d'incertitude politique dans ces moments qui sont des moments compliquée, difficile, j'allais dire pour notre pays, ne serait-ce que par rapport à des enjeux d'organisation, et quelque chose qu'un certain nombre de nos concitoyennes ont pas forcément compris et accepté. Alors après, ben, il y a eu un temps de campagne très court. Et ça a été très difficile pour tous les candidats et pour tous les partis de s'organiser. Bon, pour autant, ben, la démocratie a parlé. Parce que, au travers d'un taux de participation donc de près de 70%, 7 électeurs sur 10 qui se déplacent aux élections législatives, c'est beaucoup plus que nous l'avions précédemment. Il faut dire que avec la réforme du quinquennat et des élections législatives placées juste après les présidentielles, qui étaient des élections globalement de confirmation donc du résultat des élections présidentielles, nous avions une participation qui était assez faible. Donc la démocratie française a montré sa vitalité au travers du vote qui était celui de nos concitoyens. Alors après, il ressort finalement de cette séquence électorale le fait d'avoir une Assemblée nationale encore plus morcelée que ce qu'elle l'était précédemment, avec trois blocs dont aucun n'a la majorité. Et même relative, je veux dire, à certains égards. Et donc, ceci entraîne un certain nombre d'incertitudes et d'inquiétudes au regard de la façon dont les choses pourront s'organiser dans les jours et les semaines qui viennent, avec différents éléments. Et nous l'avons vu pour l'élection au perchoir, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée nationale pour laquelle il y a eu finalement un signal au travers de la réélection de l'ancienne présidente qui a des qualités personnelles requises pour assumer cette fonction, et elle l'a assumée de la meilleure façon qui soit par le passé. Mais le signal politique au travers de l'élection en fait de la réélection de l'ancienne présidente, c'est en gros de dire aux Françaises et aux Français, rien ne change. Et là, c'est quelque chose qui a interpellé un certain nombre de nos concitoyens. Et donc, nous sommes dans une situation donc politique particulièrement complexe, hein, c'est vrai, et pour laquelle nous ne savons pas à ce jour comment les choses vont s'organiser. Assurément, cela se fera après les Jeux Olympiques et après la période de trêve estivale, mais avec effectivement un risque d'avoir un gouvernement qui soit un gouvernement minoritaire, avec une coalition dont on se rend compte, et il faut avoir l'honnêteté, l'objectivité de le reconnaître, un jeu de poker menteur de la part d'un certain nombre de responsables politiques qui ne veulent pas exercer le pouvoir, de fait, parce que c'est plus confortable de rester dans l'opposition, ou d'annoncer des mesures très démagogiques comme le fait de revenir sur la réforme des retraites, donc plutôt que d'assurer l'exercice donc de la réalité du pouvoir en n'ayant pas de majorité à proprement parler pour assumer cela. Un élément aussi qui est un élément qui va compter dans les équilibres politiques à venir, c'est le rôle du Sénat. C'est-à-dire que le Sénat va avoir un rôle encore plus important que celui qui était le sien. Et depuis le début de la Ve République, jamais le Sénat n'aura eu une importance relative aussi forte dans le jeu institutionnel au regard du fait qu'il incarne la crédibilité, la stabilité et la responsabilité dans ces moments un peu difficiles et un petit peu compliqués. Voilà pour les grandes lignes de ce que je crois. Après, pour autant, et c'est mon intime conviction, jamais le pire n'est sûr. Et la France a connu des crises, et des crises peut-être plus importantes que celle-ci à certains égards, et me viennent en mémoire ce qui s'était passé au moment de la débâcle de 1940. Et elle s'est toujours relevée. Et donc, moi, je voudrais aussi, par rapport à vos auditeurs, adresser ce message qui est toujours un message d'espoir au regard de la nécessité de pouvoir retrouver un certain nombre de ferments d'unité, parce que notre pays a besoin d'unité, mais aussi de responsabilité, et avec des démarches qui vont émerger, notamment une que j'ai entrepris avec Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, c'est-à-dire lui, l'élu métropolitain, et moi, l'élu rural, pour travailler ensemble sur une dynamique, une approche territoriale au travers de notre pays, en fait, pour essayer de changer, entre guillemets, le logiciel politique dont on voit qu'il ne fonctionne pas, et pour lequel nos concitoyens montrent leur insatisfaction. Et donc, ça va être un enjeu qui va être un enjeu important et fort pour les semaines et mois à venir.
Voilà. Je le rappelle donc, Philippe Folliot, vous êtes sénateur du Tarn en Occitanie, membre du groupe Union Centriste, troisième groupe représenté au Palais du Luxembourg. Merci beaucoup pour cet entretien et on va vous souhaiter un bel automne et surtout un automne sans élection, une trêve électorale.
Merci beaucoup.
Merci.
L'histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. Tous les mardis matin, 8h à 9h, 102.3 FM.
Toujours à Radio Centreville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On s'intéresse encore une fois à l'Union européenne et à son fonctionnement au terme des élections européennes du mois de juin. C'est le début des tractations autour de la Commission européenne. Qui seront les 27 commissaires? Il y a déjà des noms qui pointent, il y en a déjà quand même qui sont sortis et qui devraient rester. Entre autres, Kaya Kallas, qui est désignée prochaine responsable de la diplomatie européenne, donc l'ancienne première ministre d'Estonie, qui va occuper ce poste pour discuter du poste lui-même, mais surtout des défis qui l'attendent. Il s'appelle Philippe Perchoc, il est directeur IRSEM Europe, qui est la branche européenne de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, donc l'IRSEM, irsem.fr pour en savoir davantage. Il a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Bruxelles. Philippe, bonjour et bienvenue à Radio Centreville.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler de ce défi de taille qu'attend Kaya Kallas, d'abord, l'IRSEM, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est votre fonction?
Alors, l'IRSEM, c'est un institut qui a une quinzaine d'années et qui est le centre de recherche du ministère des Armées en France, qui est là pour éclairer le débat stratégique et répondre aux besoins de recherche du ministère des Armées.
Voilà. Parlons justement de celle qui va succéder à Josep Borrell, donc Kaya Kallas, qui est désignée, pour le moment désignée, chef de la diplomatie européenne. Kaya Kallas, estonienne, et qui dit Estonie, dit Russie juste à côté. Plusieurs avaient suspecté un peu les retombées de la guerre, que la personne, disons, la mieux placée pour parler de diplomatie devait être, entre guillemets, collée sur la Russie, donc un état balle, par exemple. C'est finalement Kaya Kallas, dont le nom qui est ressorti. Êtes-vous surpris par ce choix?
Je ne suis pas tellement surpris par ce choix. Disons qu'en réalité, il y a pu y avoir chez certains États membres des questionnements autour de savoir est-ce qu'on n'aurait pas dans ce cas-là une autre représentante, un qui serait trop axée sur la Russie et pas assez sur le reste du monde, hein, parce qu'elle est censée diriger la diplomatie européenne pour tous les pays du monde, et puis du deux sur une ligne trop dure vis-à-vis de la Russie. Donc je pense que maintenant, personne ne pense qu'il y a une ligne trop dure vis-à-vis de la Russie. Je crois que les Européens sont assez bien alignés sur ce qu'ils veulent de Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et puis sur la connaissance du monde, sur l'ouverture au monde, je pense qu'elle a rassuré, et donc elle est partie pour ce mandat de 5 ans.
Kaya Kallas, donc, aura un mandat de très grande importance. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, un peu une compétition entre la commissaire en chef et ce titre? Parce que, d'une certaine manière, la commissaire en chef, Ursula von der Leyen, voire le président du Conseil européen, Charles Michel, bon, jusqu'à on ne sait pas trop quand, ben, s'occupe déjà un peu des relations internationales. C'est qui, finalement, le patron des relations extérieures en Europe?
Alors, Alors, ça dépend tout simplement de quoi on parle. Si on parle des matières qui sont les matières communautarisées, c'est-à-dire en gros tout ce qui est dans le traité des compétences exclusives de la Commission, par exemple le commerce international, par exemple l'agriculture, etc., c'est la présidente de la Commission qui représente l'Europe sur la scène internationale. Pour tout le reste, et je dirais plutôt pour la diplomatie qui a trait à la paix et la guerre, dans ce cas-là, c'est le président du Conseil européen qui est l'instance qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement. Ensuite, il y a tout ce qui a trait à la mise en œuvre technique de toutes ces décisions. Et donc là, c'est le haut représentant qui s'en occupe. Il est à la tête de ce qu'on pourrait imaginer un peu comme un ministère des Affaires étrangères de l'Europe. Il est à la tête d'un service de plusieurs dizaines de milliers de diplomates. Ce service diplomatique est là pour mettre en œuvre. Et dans ce service diplomatique, on trouve trois types de personnes. Des gens qui viennent à l'origine de la Commission et qui connaissent justement les matières dont j'étais en train de parler, l'agriculture, le commerce international, enfin toutes ces choses qui sont à l'échelle de Bruxelles et de la Commission européenne. De l'autre côté, des fonctionnaires qui avant venaient du Conseil des ministres, c'est-à-dire le Conseil des ministres qui rassemble les ministres des Affaires étrangères européens quand ils parlent de politique étrangère. Et puis trois, des diplomates qui sont détachés des États membres, qui en fait font environ 30% du staff. Et donc c'est ce mélange à trois qui en fait compose la diplomatie européenne et qui met en musique, qui met en œuvre, qui applique sur le terrain et dans les délégations de l'Union européenne dans plus de 120 pays dans le monde, la politique étrangère de l'Europe.
Et d'après vous, pourquoi absolument l'avoir choisi? On a parlé en bien de sa gestion de l'Estonie, c'est vrai. Elle a été une des premières à monter au front suivant l'invasion ukrainienne et l'Estonie est très impliquée, je crois, dans l'aide à l'Ukraine. Est-ce que ça a vraiment joué dans sa candidature? Est-ce qu'il n'y a que ça qui a joué dans sa candidature?
Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont joué dans sa candidature. D'abord, effectivement, elle a une excellente réputation de gestion en Estonie. L'Estonie, c'est un pays qui a envoyé des moyens militaires en Ukraine 2 jours avant le début de l'invasion. Donc, en fait, ils soutenaient l'Ukraine avant même qu'elle soit envahie. Et c'est aussi un pays qui a reçu énormément de réfugiés ukrainiens. Donc, c'est un pays qui est vraiment en première ligne de l'aide à l'Ukraine. Et ça, bien sûr, ça a joué en sa faveur. Je pense que ce qui a joué aussi en sa faveur, c'est qu'en fait, elle vient du groupe politique libéral. Et en fait, quand on compose un peu le paysage politique européen après les élections, il faut aussi prendre en compte les affiliations partisanes des uns et des autres. La présidente de la Commission, elle vient du PPE, le Parti conservateur. Le prochain président du Conseil européen, Costa, l'ancien Premier ministre portugais, il est socialiste. Et donc, avoir une personnalité libérale dans ce poste, c'était important aussi. Le fait que ça soit une femme, bien sûr, ça a aussi joué. Donc, c'est un peu comme la formule magique pour faire le gouvernement de la Suisse. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'une case à cocher. Il faut jouer au jeu des 7 familles et en avoir un petit peu pour tout le monde.
Au moment de l'entrevue, nous sommes fin juillet et du côté Est, il y a beaucoup de boulot pour l'Union européenne, mais du côté Ouest, on peut peut-être imaginer un retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Est-ce que Kaya Kallas va devoir composer avec 4 années de troubles prévus avec les États-Unis, selon vous, advenant une victoire de Donald Trump, bien entendu?
Je pense que pour les pays baltes, qui reposent énormément sur les États-Unis pour leur sécurité, le premier mandat de Donald Trump a été très important dans leur prise de conscience du fait que les États-Unis seuls n'allaient pas les défendre et qu'il faut aussi miser sur la défense européenne. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé, je pense, dans la mentalité des Baltes. Et on voit bien d'ailleurs que l'Estonie, qui était un pays par exemple assez frugal, dans le sens où elle ne voulait pas que l'Union européenne s'endette, a maintenant proposé que l'Union européenne s'endette pour acheter du matériel militaire. Donc ça, c'est absolument nouveau. Donc, je pense que tout le monde se prépare. Est-ce qu'on se prépare assez vite? Est-ce qu'on se prépare assez fort? C'est la question. C'est plutôt une question d'intensité parce que l'idée que les États-Unis seront maintenant dirigés par quelqu'un qui ne connaît pas l'Europe ou qui n'a pas pour l'Europe une place spécifique dans son cœur, ça paraît évident. Même si c'était Kamala Harris, je pense qu'elle est beaucoup moins attachée que le président Biden à l'Europe. Elle a moins d'expérience européenne. Et donc, c'est un fait que les États-Unis se détachent de l'Europe, ne serait-ce que par la sociologie de leur personnel politique.
Voilà. Et qui dit, Kaya Kallas dit, bilan Josep Borrell. En 5 ans, Josep Borrell, selon vous, a-t-il fait un bon boulot? Faut-il le rappeler? Il y a quand même eu une COVID, une guerre déclenchée entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que le bilan, selon vous, de Josep Borrell est positif?
Oui, moi, je pense qu'il est positif. Il est dans une situation dans laquelle on a quand même connu de multiples crises. Je rappelle que les dernières élections européennes, c'était en 2019, c'était même avant le COVID. Donc il a fallu gérer les aspects diplomatiques du Covid à l'échelle mondiale, il a fallu gérer la guerre en Ukraine, il a fallu gérer de multiples crises, hein, le départ des États-Unis d'Afghanistan, enfin je pourrais les multiplier, la guerre en Syrie, les troubles en Méditerranée. Donc par essence, c'est un job dans lequel on affronte crise après crise. Et je pense que le boulot a été quand même fait. Et aussi, ce service européen d'action extérieure, hein, donc la diplomatie européenne, n'existe que depuis 2011. Et donc ça va bientôt faire 15 ans. 15 ans, c'est rien à l'échelle de la création d'une diplomatie. Et ce que me disent mes interlocuteurs ici à Bruxelles, c'est qu'ils ont le sentiment qu'il y a la mayonnaise qui prend. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une culture diplomatique mieux comprise, les États membres qui voient l'avenir d'une manière plus cohérente. Donc les gens se parlent plus, les gens comprennent le monde d'une manière plus cohérente. Et ça, je pense qu'on le doit à Josep Borrell et à ceux qui sont venus avant lui. Peut-être Josep Borrell, on peut souligner aussi qu'il a fondé un projet qui va lui survivre et qui est l'Académie diplomatique européenne. Et que cette Académie diplomatique, elle va être là pour former les diplomates européens et les diplomates des États membres. Et que ça, c'est du positif dans le fait de forger cette culture commune.
Voilà. Alors, je me rappelle, Philippe Perchoc, donc, vous êtes directeur IRSEM Europe, la branche européenne de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, donc irsem.fr pour en savoir davantage, en duplex avec Bruxelles. Merci beaucoup pour l'entretien et on vous souhaite un bel automne.
Merci beaucoup.
Merci.
L'histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. Tous les mardis matins, 8h à 9h, 102.3 FM.
Toujours à Radio Centreville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. Retour aux élections britanniques qui, de mémoire, se sont conclues le jeudi 4 juillet avec les résultats que l'on connaît. Un nouveau premier ministre britannique, Keir Starmer, du Labour Party, qui remplace 14 années de parti conservateur au pouvoir, donc de mémoire 2010, David Cameron devenait premier ministre. Pour faire une analyse de cette longue campagne et de ce qui attend Keir Starmer, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il s'appelle Christopher Prowser. Il est maître de conférences en politique au Royal Holloway University of London et il est également membre de la British Election Study. Nous l'avons déjà reçu à Radio Centreville et ça nous fait un grand plaisir de le recevoir de nouveau. Et nous sommes en duplex avec Londres. Christopher, it's a great pleasure to talk with you this morning, and thank you very much.
It's a pleasure to be here. Thank you for having me.
Nice. So, Christopher, from now on, your Prime Minister is Keir Starmer after 14 years of leadership of Conservative Party and a lot of Prime Minister, 4 in 2 years, less than that. At first sight, what will change inside UK because of the Keir Starmer victory?
Well, I think thinking about the kind of politics of the UK going forward, there's a lot of different things that are going to be changing, a lot of different levels. So internationally, I think we're going to see that the UK is going to be much more kind of open and engaged with the European Union as the most kind of obvious example. And I think in the early days of kind of the Starmer prime ministership, you can already see that happening. And they're kind of deliberately presenting themselves as a kind of much more open, much more kind of cooperative and less confrontational kind of potential partner than certainly the Conservative government did during the Brexit period. Kind of domestically, there's also going to be quite a few changes. I think we're still kind of waiting to see how certain details are going to shake down. But it looks like the government is, much more pro investment. kind of much more kind of pro kind of using public services rather than kind of, you know, looking to the private sector and that sort of thing. So I think there's big changes ahead for British politics, both kind of on the international stage and also domestically.
International stage, let's talk about the next neighbor, European Union. Do you think the relationship will be better in between London and Brussels due to that brand new prime minister?
I mean, on the one hand, it would be hard to be worse than it kind of has been over the last few years. So, it must be better. I think certainly the kind of attitude seems to be much more positive. But I guess that as time goes on and we kind of get over kind of perhaps an initial honeymoon period where certainly I imagine lots of people inside the EU are probably very glad to have, outwardly at least a kind of more cooperative partner. But some of the sticky issues about how to resolve Britain's relationship with the EU will still be there, right? So there'll still be the questions of how you can kind of balance, Britain being separate from the EU, but with, wanting a closer trading relationship and exactly what rules do and don't apply and how different processes are going to operate. These kind of slightly sticky questions are still going to be there. So I do expect that Britain will have a more cooperative relationship with the EU going forward, but it's certainly too soon to say at the moment that, it's all going to be plain sailing. I'm sure there will still be disagreements over how things are going to work. But hopefully, the sort of slightly more friendly stance will go a long way in helping to smooth out some of those wrinkles.
What was the main issue of that electoral campaign? We talk about money, we talk about the cost of living, of social care. Do you think another topics have been forgotten during that electoral campaign?
Yeah, I mean, it's a really interesting election because on the one hand, it's a very kind of ordinary election. You had the Conservatives who had been in power for 14 years. They had governed during a period of economic downturn. There'd been a lot of inflation, cost of living crisis and so on. And we know kind of in general that when governments preside over economic downturns and high levels of inflation, then they tend to lose. So in kind of one respect, it's a very ordinary election. It's the kind of electoral outcome that you would expect given the economy. But in another sense, it's a kind of very extraordinary outcome, and particularly the kind of size of the kind of changes. So we had the Conservative Party doing its worst ever kind of electoral performance, both in terms of seats and votes. It wasn't as bad as some of the polls were predicting, so I think some people inside the Conservative Party breathed a sigh of relief when the results came in. But, it is the kind of worst electoral outcome for the Conservative Party in 190 years. So the scale of the loss was extraordinary. And the kind of converse of that is that the Labour government have been returned to power with a very large number of seats. So they've got 411 seats and a very large majority over the other parties. But actually, they did so on a relatively low share of the vote. So they only won 33.7% of the vote. And I think, I haven't checked my maths on this, but I think that's actually the lowest kind of ever share of the vote for a majority government in British history. So the kind of combination of things led to that outcome is fascinating. So on the one hand, you had the rise of the Reform Party, so the successor to UKIP, which was peeling away voters from the Conservative Party's kind of more right wing. And then you also had the Liberal Democrats, who, although their vote share was relatively small, won a huge number of seats from the Conservatives. And so you had them kind of peeling off votes from the kind of more liberal wing of the Conservative Party at the same time. And so both of these things kind of going hand in hand kind of leads to this sort of slightly odd outcome where you have enormous kind of losses for the Conservatives, very sort of small gains for Labour in terms of votes, but also very large kind of gains in terms of seats. And there were also kind of lots of other smaller stories going on at the election as well. So we had the kind of best ever Green Party performance, both in terms of share of the vote and seats. There are a kind of relatively large number of independent candidates who won seats. So it's a really fascinating election, and there's a kind of a lot that happened and a lot going on.
Hmm. It's over for Rishi Sunak. It's over in a certain way for a Conservative Party. But do you think that party has to be rebuilt? And it is possible that the impossible coming, that is Boris Johnson Bojo, strikes back?
I think there's a big challenge ahead for the Conservative Party, particularly. You know, they are being torn in two directions. And I think whoever is kind of going to take charge, whether it's Boris Johnson or not, and then to be honest, I find it difficult to see Boris coming back, at least initially. He's out of parliament. He's kind of not in a position to become the next Conservative leader. Whether he makes a kind of later comeback, I guess, is still up in the air. But whoever does kind of take over, they're faced with a kind of dilemma. Do they kind of go to the right and kind of take on a more populist kind of anti-immigration tone? Some people have even suggested that they merge with the Reform Party and kind of bring Nigel Farage into the kind of Conservative fold. Or do they kind of veer left, or kind of not left, but more liberal, in order to try and win back the seats that they lost to the Liberal Democrats? And it's a tricky position because on the one hand, they certainly lost more voters to the Reform Party, but they lost more seats to the Liberal Democrats. And so which way they kind of decide to go is going to largely determine the kind of map of the next British election, I think. And it's kind of hard to see what their best option is. They're kind of, you know, they're faced with a very difficult situation, I think, in terms of trying to maximise their votes and maximising their seats at future elections. But then the next election is probably 5 years away, so they've got a lot of time to play with, and certainly if the last 5 years of British politics are anything to go by, a lot could happen in 5 years, and so it's hard to say for sure where we'll be exactly.
So let's talk about, last but not the least, we didn't talk about much about that brand new political party, Reform Party, led by Nigel Farage. Actually, 5 out of 650 seats. It's not big. It's a small political party. 7 local government. Do you think that party can be dangerous in the future? We said that it was not a problem in Germany or in France when few won in extreme right has been voted 30, 40 years ago, but today it's really different. Do you think that party can go far?
Yeah, I mean, it's kind of hard to say. So on the one hand, Reform is a new or newish party. It's the kind of successor to the Brexit Party. But then the Brexit Party was really a kind of continuation of UKIP. So even though UKIP kind of continues to exist now, Nigel Farage, who was then leader of UKIP, kind of fell out with most of the people in the party and kind of took most of the kind of supporters and kind of key people in the party with him to form this this new party. So in some ways, it's a kind of successor to a party that's been around for quite a long time and has done this before. So if you look at 2015, there's a kind of big spike in UKIP's vote. They got a kind of similar vote to what the Reform Party got in 2024, but then they kind of faded away, and that is kind of one potential fate. Maybe they kind of peaked in at this election because people were kind of angry with the incumbent Conservatives, but now the Conservatives are obviously not in government. The people who were angry with them might kind of start to drift back with them. It's going to be very difficult for Reform to make an impact within Parliament because they only have 5 seats. And, it's going to be very difficult for them to show that they've actually achieved anything in Parliament. Those individual MPs might have a difficult time kind of showing that they've achieved on local issues for their constituents. So it's kind of hard to see from one angle that Reform might do kind of anything more than they kind of already have. And the circumstances couldn't have been better for them, really, at this at the 2024 election. right? You had a conservative government who was deeply unpopular, and that's, you know, not going to be true next time. You're going to have a Labour government who may or may not be popular by the time of the next election, but because reform has kind of drawn a lot of kind of conservative voters, those voters might be more inclined to try and get rid of the kind of Labour government than continue to punish the Conservatives. But on the other hand, as I was saying before, you know, the Conservative Party faces a difficult choice about which way they're going to attack in the future in terms of their policies. And so the biggest influence of reform might be indirect. It might be through influencing of what the Conservatives choose to do next, and particularly whether they choose to enter into some sort of formal kind of arrangement with reform, or simply kind of mimic their policies and kind of pursue a kind of similar political agenda. So, you know, it's hard to see the Reform Party by itself overtaking the Conservatives and kind of replacing them as the kind of party of government, particularly given the British electoral system, which, you know, makes it very difficult for smaller parties to do that. But I think we'll kind of continue to feel their influence indirectly for the foreseeable future.
So, Christopher Prosser, live from London, thank you very much for your analysis.
No worries. Thank you for having me on.
It's a great pleasure. Thank you.
L'histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. Tous les mardis matins, 8h à 9h, 102.3 FM.
Toujours à Radio Centreville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On s'intéresse encore une fois à la politique britannique, je devrais plutôt dire la nouvelle politique britannique, puisque Keir Starmer prend désormais le pouvoir après 14 années de pouvoir conservateur au Royaume-Uni. Qu'en est-il des questions d'égalité femmes-hommes, sujet fétiche, il en est un. Pour en discuter, elle s'appelle Anna Sanders, elle est conférencière au Department of Politics and International Relations de l'Université de York, en plein centre de l'Angleterre. Elle a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec York. Anna, it's a great pleasure to talk about gender equality this morning, and thank you very much.
Thank you for having me.
It's a great pleasure. First and foremost, Keir Starmer has won the general election. It's now the new prime minister. After 14 years of leadership of Conservative Party, at first sight, what will change in UK, according to you, from now on?
Well, Labour have really tried to portray themselves as a party that stands for gender equality and a party that will push for big changes around gender equality. So some of the things that we might expect to see are policy initiatives around tackling low pay, which is an issue that predominantly affects women. We'll also see some new laws come into place around tackling violence against women. We'll also see some policies around introducing more nurseries, so 3,000 more nurseries to be precise, which is what the Labour Party has pledged. So we'll see in particular some policies around the economy, childcare and crime.
When you check the general election during May, once it was official, and during June, according to you, gender equality, is it a topic really popular in general election in general, not specifically in UK, but in general, when there is general election all around the world, it doesn't seem to be a really important topic. Is it true?
Gender equality hasn't traditionally been a very important topic for parties. And actually what we've seen in previous elections is that parties have tended to assume that voters are men and pledge around the fact that voters are male. And what we've seen in recent years is that parties are becoming more aware of gender equality and they're becoming more conscious of the fact that actually voters are diverse and that women make up a significant majority of voters. So we've seen in the UK, at least in the last couple of elections, and especially at the 2024 election, gender equality at the top of most parties' agendas. And that's partly because parties have become more cognizant. They've started to realise that if they want to win elections, they need to win women's votes.
What about Bridget Phillipson? She's the brand new Minister of Education and Gender Equality. Do you think she will deliver the job?
So Bridget Phillipson has served as Shadow Education Secretary. So she has experience of serving on the front benches. So she does have experience in this field. She will need to work with other departments in order to fulfil her role as Minister for Women and Equality. So she'll need to work with, for example, the Chancellor, Rachel Reeves, on ending the gender pay gap. She'll need to work with the Home Secretary, Yvette Cooper, to tackle violence against women. So in order to fulfil the pledges that Labour have made around gender equality, in order for her to fulfil her role, she'll need to work with those in other departments.
When you think about UK in general, Anna, do you think your country is feminist? Historically, do you think that country is a leader in gender equality in the history?
So historically, the UK hasn't... I'm just going to say that again, if that's okay. So historically, the UK hasn't... So comparatively, the UK hasn't necessarily been a leader in gender equality. If we're looking at measures like the gender pay gap, we still have a gender pay gap in the UK. More women are in insecure work compared to men. We still have a majority of those who are living in poverty are women. And still to this day, women tend to be the predominantly victims of domestic abuse. So there are still gender inequalities in the UK. However, as a country, we have become more progressive. We are steering gradually towards more gender equality. And one of the ways we can see that is in our parliament. So what we've seen at the 2024 election is that now 41% of our MPs are now women. So that's a significant jump up from the previous election of 2019, where just 34% of MPs are women. We now have nearly half of our MPs being women. So we are making some progress in some of the indicators towards gender equality.
When I look on your profile on University of York, it is written that you are particularly interested in the gender impact of policies and how they influence difference in the ways that men and women vote. What do you mean by that? A man vote in a direction and women in another direction?
So by that, we can see that women and men have traditionally voted differently for different parties. So in the UK, women have historically voted Conservative, whereas men have historically voted for Labour. But that's changed in recent years. And actually, that gender gap has reversed. So women have now become more likely to vote for Labour, and men have become more likely to vote Conservative. And part of the reason that we've seen this change in the gender gap is because of policies. So economic policies that we've seen that have been brought in over the last 10 years, so for example, austerity policies, have hit women particularly harder than men. And as a result, we've seen women gravitate towards the Labour Party much more so than the Conservative Party. So we can see actually that some policies can influence gender differences in the ways that women and men vote.
Hmm. So in the end, Anna, imagine you receive a phone call by Kirstarmer and asking you, Anna, I want to change our society. I want to make a better relation between men and women. What do you want to say to him?
I would say that it starts with representation. So it's important to have a gender balanced cabinet, which the Labour Party has already done. Half of the cabinet are now women. And you need women in powerful positions in order to implement policies that are gender balanced and gender equal. So representation is really important. And then from there, you can think about the sorts of policies that will benefit women and gender equality more widely. In particular, the economy is really important. So things like tackling low pay, which is more likely to impact women than men, tackling the gender pay gap, and also making sure that there are childcare facilities available to support women into work so that they can undertake employment and accrue economic independence for themselves.
Hmm. And as for international relations, there is a lot of summits all around the world, the G7, G20, G30, NATO summit, things like that. Do you think UK has to talk about gender equality with other countries? When we see sometimes a meeting in between leaders of the world, it doesn't seem to be really important. They talk about economy, they talk about treaty, but gender equality seems apart. Is it important for you to be clear, we will do business with you if you respect women, for example?
I think it's a really important message to be portrayed. I think it's a really important message to be communicating that gender equality matters, and that needs to be reflected in the sorts of international discussions that the UK has with other countries. There's a lot that we can learn as a country from other nations, but also it's important to prioritise gender equality when we're thinking about the sorts of deals and discussions that we're having with other countries, yes.
Nice. So, Anna Sanders, live from York, thank you very much. And last but not the least, for the future, Anna, for the future of gender equality relation in between men and women, are you optimistic?
I'm cautiously optimistic. I think that if the last election showed anything, it's that we can make progress. So we've seen now, for the first time, the appointment of a woman chancellor. That's a really important position to be filled. Half of the cabinet are now women, and we've seen a significant increase in the number of women in parliament. However, we know that it doesn't just stop at representation. We know that policies are also important. So time will tell if some of the pledges that Labour are talking about will materialise.
Thank you very much, Anna Sanders. It's a great pleasure.
Thank you. Thanks for having me.
L'Histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe.
Let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all we shared the laughter and the pain.
I'm sure